qu'il y a de super, c'est qu'on est à la maison, on est encouragé et à travers ce qui a été partagé ce matin, ben, je pense que Dieu prépare. Et aujourd'hui, j'avais à cœur un exercice qui n'est pas forcément facile, de vraiment étudier un texte et de s'attacher vraiment à ce qu'on trouvait dans le texte. Alors c'est peut-être une forme un peu différente, mais ça va nous préparer à ce qu'on va faire prochainement avec l'Exode. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais apporter? Et vraiment, ce qu'il y avait sur mon cœur, c'était ce passage de Jésus qui rentre à Jérusalem. Cette entrée triomphale. Alors on va lire le texte, je vous propose de prendre vos Bibles, on le trouve dans les quatre évangiles. Il a fallu choisir un des quatre, et j'ai pris celui de Marc, dans Marc 11, du verset 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagé et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez, « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché, dehors, près d'une porte, dans la rue, et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent, « Comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. » Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur ! Le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts !» Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les douze. Voilà le texte que nous allons voir aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a certaines parties qui m'ont un peu plus parlé, mais peut-être que vous, ça sera différent. Que s'est-il passé avant ? Alors vous savez que les quatre évangiles, des fois, ne racontent pas tout dans le même ordre. Des fois, c'est plus par chronologie, des fois c'est plus par thème. Là, ce que l'on peut noter, c'est que Jésus déjà a annoncé, dans Marc, il a annoncé pour la troisième fois sa mort. Avant, il y a eu des guérisons d'aveugles. Entre autres, un qui s'appelle Bartimée, qui entend, il jette son manteau et il dit « Fils de David, aie pitié de moi ». On trouve ça aussi dans Marc. Un titre messianique. La venue du Messie très fort. Dans Jean, on a une décision du Sanhédrin, l'autorité religieuse. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Et on trouve aussi juste avant Marie qui vient oindre Jésus d'un parfum. C'est la préfiguration de l'ensevelissement de Jésus. Mais revenons à notre texte du jour. Verset 1, vous l'avez toujours sous les yeux, ils approchent, donc si ma géographie qui n'est pas très bonne, mais dans mes études, ils arrivent de l'Est, il y a Béthanie, Bethphagé qui n'est cité, si je ne dis pas de bêtises, qu'à ce moment-là, qui devait sûrement être un quartier ou un petit village entre Jérusalem, ils arrivent du côté du Temple, ils passent par le mont des Oliviers, ce sont des repères géographiques très chargés. Proximité du temple, là où il y a eu l'enseignement, de la prière. Le mont des Oliviers, où Jésus fera son discours aussi eschatologique, le discours sur la fin des temps. Le geste introductif, Jésus envoie les disciples. C'est quelque chose d'organisé. C'est pas improvisé. On a vraiment une volonté prophétique. Au verset 2, il leur dit « Allez au village qui est devant vous ». On a une connaissance surnaturelle des choses. Il y a un ânon qui est attaché. Un ânon sur lequel personne ne s'est encore assis. Il y a une nouveauté, c'est un animal qui symbolise un instrument réservé, une mission particulière. Vraiment, on voit bien tous les détails. Au niveau littéraire, on pourrait dire qu'il y a un ordre de Jésus précis. On a vraiment cette connaissance, on a vraiment une dimension prophétique dans ce verset. Au verset 3, il les prépare, il leur dit « On va vous interroger, mais le Seigneur en a besoin. C'est un droit divin, on voit l'autorité. L'acte est présenté comme justifié par la nécessité. Il est donné par le Seigneur. » C'est une remarque très pratique. Ben, les disciples ne veulent pas se sentir au dépourvu. Tout s'accomplit comme il était prévu. Au verset 4, ils allèrent et trouvèrent un ânon attaché près d'une porte, à l'extérieur, sur place, et ils le détachèrent. On n'a pas de surprise. C'était annoncé. La localisation, l'âne n'est pas caché, il est visible de tous. Il y a des verbes d'action. Ils allèrent, ils trouvèrent, ils le détachèrent. C'est rapide, c'est factuel. Au verset 5, vient la chose qui aurait pu troubler les disciples. Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent « Qu'est-ce que vous faites ?» en détachant cet ânon. C'est la vigilance des voisins. Il n'y a pas marqué les propriétaires. Quelques-uns qui étaient là. Hein, vous avez tous des voisins comme ça. Quand il se passe, ils regardent par la fenêtre. C'est pratique des fois. Mais là, c'est ça. Les spectateurs, on ne sait pas exactement qui c'était. Ça pourrait être un moment de tension, si on regardait un film. Mais ce qu'ils font, c'est remarquer. Mais ce que l'on a vu avant, c'est que c'était prévu. Ça donne une certaine humanité. Ça aurait pu être un discours en disant « Vous allez, ils reviennent, tout s'est bien passé. » Mais tout était prévu d'avance. Au verset 6, ils dirent ce qu'avait dit Jésus et le laissèrent faire. On a l'obéissance. On n'a pas, dans ce discours, on n'a pas d'objection. La parole est transmise par les disciples. Et automatiquement, il y a une obéissance. C'est l'obéissance providentielle. Au verset 7, ils ramènent cet ânon et ils jetèrent leurs vêtements sur lui. Et ces disciples que l'on voit qui obéissent, ça me rappelle la prédication de la semaine dernière de Damien, qui est de « Qu'est-ce que c'est être disciple ?» Si ça vous intéresse, revenez sur ce message. Ils appliquent et en signe d'honneur, ils prennent leurs vêtements. Et on reviendra dessus tout à l'heure. C'est un geste d'honorification, d'intronisation. On va revenir dans de manière un petit peu plus détaillée tout à l'heure. Jésus s'assoit sur l'animal. Henri, tout à l'heure, dans ta prière, tu disais ça, tu parlais de cette âne sur laquelle Jésus. C'est un geste, on s'assoit, il ne s'est pas mis en mode à califourchon, ça, comme ça qu'on dit, en mode c'est moi qui vais, il était assis. C'est un roi qui s'assoit. Au verset 8, Jésus va rentrer. Beaucoup étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et couvrirent la route. Il y a un geste collectif d'hommage, un geste qui honore la reconnaissance royale. Les branches, signe de fête, d'acclamation. On en parlera aussi tout à l'heure. Dans Jean, il parle de palme. Ce matin, j'étais encore en train de réfléchir, je fais quelle est la distinction Bon, prenez une branche d'olivier, vous la mettez sur la route. C'est pas très pratique pour passer. S'il y a un figuier, juste après, il y a un passage où il parle de figuier, une branche de figuier, c'est pas... Donc forcément, je me dis que de manière pratique, ce devait être des palmes. Dans le passage de Marc, ce n'est pas vraiment détaillé, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Au verset 9, ceux qui précédaient, ceux qui suivaient, criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Que veut dire Hosanna ? Hosanna, sauve maintenant. C'est à la fois un cri de bénédiction et un cri de salut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça nous rappelle le psaume 118. L'acclamation lie Jésus à l'attente davidique, fils de David, cette attente du Messie qui vient sauver. Encore au verset 10, « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Ils étaient dans cette attente, depuis tant d'années, ce peuple, de voir le royaume restauré. Et forcément, on va un petit peu parler de cet aspect politique et de cet aspect du Sauveur, du Messie. La foule attend un roi libérateur. Alors que Jésus vient en paix, il vient sur cette âne pour accomplir une libération spirituelle. Et on reviendra tout à l'heure aussi sur ce dernier point. Et Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, et après avoir regardé autour de lui, qu'il était déjà tard, il sortit pour Béthanie avec les 12. Il entre dans le temple et regarde autour de lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a les autres évangiles qui peuvent nous parler, mais il scrute ce temple. Un moment de gravité. On repense dans les différents évangiles de Jésus qui remet de l'ordre dans ce temple. Et on pense à ce temple qui, quelques années plus tard, sera détruit. Il ne s'installe pas pour différents motifs. Mais il va, on voit à la suite de Marc, il va commencer un parcours de purification et d'amener à son sacrifice, à sa passion. Il retourne à Béthanie où il y a Lazare, un lieu de repos et un lieu de révélation. On voit ça aussi dans Jean. Voilà le texte d'aujourd'hui. Pour faire le lien un petit peu avec les différents évangiles, on voit que dans certains textes, on a deux ânes. Sûrement, la mère et le fils. Mais cela va nous conduire à l'accomplissement de Zacharie 9:9, que l'on verra tout à l'heure. Matthieu accentue un petit peu plus la filiation davidique. Donc Hosanna, le fils de David, l'ancêtre, et ce fils qui sera sur le trône éternellement. Luc ajoute la protestation des pharisiens. « Maître, reprends tes disciples. » Et Jésus qui leur répond, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » C'est une portée que la louange pour Jésus est si évidente qu'elle éclaterait quoi qu'il arrive. Jean insiste sur les palmes et ils prirent des palmes. Et vous avez une tradition, je vous avoue que je la connais pas, on a entendu parler les rameaux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ça vient de là, si je ne dis pas de bêtises, cette tradition. Voilà ce passage où Jésus rentre. Et j'aime beaucoup le verset où Jean va dire que les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent. Nous avons la chance d'avoir le recul. Nous avons la chance d'avoir le Saint-Esprit qui vient nous inspirer. Dans les différents évangiles, Luc va plus mettre peut-être l'accent sur le trouble par rapport aux pharisiens. Matthieu et Marc sur la réjouissance. Jean fait un lien un peu plus direct avec ce qui s'est passé avec Lazare, la résurrection de Lazare. Un discours plus dramatique, factuel pour certains, mais Matthieu souligne vraiment l'accomplissement prophétique. Et on va rentrer un petit peu dans le détail maintenant. Il y a trois points qui m'ont vraiment parlé, outre vraiment cette étude de ce passage. Le premier point, c'est cette âne, ce roi de paix. Toute cette dimension. Dans Zacharie 9:9, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon le petit d'une ânesse. » Voilà l'accomplissement de la promesse. Jésus, il a fait délibérément le choix de rentrer dans Jérusalem sur cet âne. Oui, on a cette représentation du cheval dans l'Empire romain où justement il était cette domination, les Césars qui rentraient triomphants. On a cette image-là, l'animal guerrier, l'animal conquérant dans beaucoup de récits. On a la cavalerie qui venait contourner parce que ça allait vite, un outil très stratégique. Et du coup, c'était un roi conquérant, victorieux après une bataille. Notre Dieu, notre Seigneur, Jésus, choisit un âne qui est au contraire un signe de simplicité, de paix et d'humilité. Jésus ne se présente pas comme un chef militaire, mais comme un roi de paix. Jésus reviendra. Et cette fois-ci, on voit dans Apocalypse, puis je vis le ciel ouvert, et voici, paru d'un cheval blanc, celui qu'il montait s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Oui, Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Sa première venue était dans l'humilité, dans la paix, pour nous réconcilier avec le Père. Mais il reviendra victorieux, Dieu de justice et de jugement. Deuxième point qui m'a fortement parlé, c'est ce manteau. Et je vous parlais de Bartimée qui jette ce manteau, ses disciples qui viennent mettre leur manteau. Alors, il y a différents mots qui viennent de manteau. Là, c'est le premier vêtement, le par-dessus. Et dans la culture biblique, le manteau représentait souvent l'identité, la dignité. C'est pour ça que Bartimée fait ce choix de laisser derrière lui pour que Jésus puisse lui rendre la vie. Il va changer d'identité. C'est pour ça que les disciples et même les personnes viennent honorer le roi en déposant sous les pieds de Jésus. Ils reconnaissent la royauté et se soumettent à lui. Dans 2 Rois 9, 13, vous avez un même exemple. C'est avec le roi Jéhu. Ils prirent chacun leur manteau et le mirent sous lui, sur les degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhu est roi ». On retrouve ça. Et là, c'est pour Jésus. Ils ont mis sur la route pour que Jésus puisse avancer. La foule proclamait « Tu es notre roi » par cet acte. Et les disciples n'ont pas reconnu ça. Je vous disais tout à l'heure dans Jean 12, 16, c'est seulement après qu'ils comprirent. Les branches de palmier, signe de fête, de victoire, de libération, elles sont aussi utilisées lors de la fête des tabernacles. Et dans l'histoire juive, les palmiers avaient aussi une connotation nationale, comme un symbole de victoire face aux oppresseurs. Et on retrouve ces branches. Le peuple acclamait Jésus roi, Jésus libérateur. Mais leur vision était pas forcément la bonne. Ils cherchaient un libérateur du joug des Romains, mais pas du tout celui que Jésus voulait apporter. Il apportait la libération du joug du péché. Et le peuple criait « Hosanna » Le dernier point, ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna, dans les cieux, dans les lieux très hauts. Le mot Hosanna signifie « sauve maintenant ». C'est une référence directe au psaume 118, comme je vous disais, psaume 118, versets 25 et 26. « Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Par ses cris, la foule reconnaît Jésus comme le Messie. Mais cette proclamation dérange fortement. Les religieux sont choqués, car appliquer un psaume messianique à Jésus, c'est de la provocation pour eux. Les autorités romaines voient en ces acclamations une menace politique. Un roi qui viendrait, serait-ce celui qui renverserait César ? Et nous, aujourd'hui, que faisons-nous de ce salut ? Henri disait ça, et je pense qu'aujourd'hui, ce texte nous parle vraiment de ça, de dire, est-ce que nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur ? Et il est encore temps aujourd'hui d'ouvrir son cœur, de reconnaître que ce Jésus qui n'est pas voulu, qui n'est pas venu sur terre comme quelqu'un de triomphant, il avait la connaissance, il avait l'autorité, on l'a vu dans ce passage, mais il est venu, humblement, monter sur un âne, donner sa vie pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous voulons d'un Jésus comme notre Seigneur ? L'entrée triomphale est pleine de contrastes. Cet âne, non un cheval, des manteaux, des branches déposées en signe d'honneur, et une foule qui, quelques jours plus tard, dira « crucifie-le ». Je crois que c'est les mêmes. On ne les a pas changés. Des hosannas sincères, mais mal compris. Une vision erronée. Ils attendaient une libération politique. Jésus apportait une libération spirituelle. Que faire pour nous aujourd'hui ? Le Seigneur en a besoin, c'est ce qui est dit, il y a une autorité. Il n'y a pas de ruse, mais une nécessité donnée par le Seigneur. Le salut est pour chacun d'entre nous. Le roi, un roi humble. Jésus entre sur un âne, le royaume de Dieu ne s'impose pas par la violence politique, mais par un changement, une acceptation de nos cœurs. La puissance chrétienne doit être humble et servante. Reconnaissons-nous en lui un roi qui vient sauver, mais aussi un roi glorieux qui viendra juger et régner. Est-ce que nous nous soumettons à lui, ce geste de donner notre identité, ce que nous sommes, pour que Jésus puisse marcher dessus, prendre le contrôle de nos vies ? Hosanna. Cette prière et cette louange, l'acte de la foule. Est-ce que Jésus est roi de ta vie ? Est-ce que nous l'acclamons ? Nous apportons à la fois notre « oui, sauve maintenant » et nous apportons notre adoration avec un cœur repentant, une préparation intérieure. Jésus répond à ce cri en nous donnant la vie éternelle. Est-ce que parfois nous n'avons pas, comme cette foule, des attentions, des attentes erronées ? Quelles sont nos attentes ? Est-ce que nous voulons un Dieu qui nous apporte prospérité, confort, des solutions rapides ? Ou est-ce que Dieu fait tout bien en son temps, comme il a préparé pour nous. Et quand on entend des témoignages comme ce matin et dans la vie de plein de personnes, Dieu fait les choses bien en son temps. Nous, on voudrait des fois des solutions rapides. Mais ce n'est pas ce qui est prévu par Dieu. Enfin, Jésus qui jette un regard sur le temple, il regarda autour. Avant d'agir, il prépare, il a des instructions claires. Dieu regarde à nos cœurs. Et nous devons regarder à nos cœurs pour nous réformer, pour changer, pour appliquer ce que nous entendons. Oui, cette entrée triomphale de Jésus, c'est le premier acte, l'acte qui nous permet d'accéder à la vie éternelle, d'accepter Jésus comme sauveur. Mais il annonce aussi la seconde venue, la victoire finale, où Jésus reviendra nous chercher. Je vous propose de terminer par prier. Ouais, Père éternel, merci parce que tu as envoyé Jésus. Il pouvait tout faire, mais il a décidé de venir simplement, humblement, rentrer à Jérusalem. Il est venu apporter la paix, la réconciliation. Il est venu donner sa vie pour que j'aie la vie. Alors à travers ce passage qui est reporté dans les quatre évangiles, je veux vraiment me rappeler de cette humilité. Car sans lui, je n'aurais pas la vie. Merci pour ce don précieux, merveilleux. Et moi, en retour, je veux regarder à mon cœur. Je veux déclarer que tu es mon sauveur, mais tu es aussi mon Seigneur. Je veux déposer mon cœur, tout ce qu'il y a sur, dans ma vie. Je ne veux pas avoir des attentes qui seraient faussées, mais simplement regarder à toi et marcher à ta suite. Fais de moi un disciple qui reçoit simplement et qui partage, qui apporte la bonne nouvelle autour de moi. Viens te servir de ce que je suis, de mes ressources, de mon temps. Et merci de me rappeler qu'un jour tu reviendras et tu viendras me chercher. Au nom de Jésus, amen.
Amen.